Le journal est présenté par Diane Berger. Bonjour Diane.
Bonjour Quentin, bonjour à tous. 30 ans de démocratie en Afrique du Sud et l'heure du bilan pour l'ANC au pouvoir. La nation arc-en-ciel reste l'une des plus inégalitaires du monde, vous l'entendrez. Le chef de la diplomatie française entame une tournée au Proche-Orient sur fond toujours de guerre à Gaza et de crainte pour l'embrasement de la région tout entière. La guerre à Gaza et les crispations qu'elle génère jusqu'en France. À Paris, les étudiants qui bloquaient Sciences Po sont parvenus à un accord avec la direction. Le parti animaliste en campagne à l'approche des élections européennes. Le petit mouvement espère doubler son score de 2019. Et puis beaucoup de Français aiment danser, mais peu se rendent au spectacle de danse. Focus dans ce journal sur la difficile démocratisation de cet art, souvent perçu comme très élitiste. C'était il y a 30 ans exactement, en Afrique du Sud, des files interminables à l'extérieur des bureaux de vote du pays pour le tout premier scrutin multiracial et l'avènement de la démocratie, une élection remportée par Nelson Mandela. Trois décennies après ce rêve d'une nation arc-en-ciel, l'ANC, le Congrès national africain, est toujours au pouvoir, mais le bilan est plutôt contrasté, Claire Bargelès.
Dans les rues de Westbury, un township métis déshérité et marqué par la violence entre gangs à l'ouest de Johannesburg, de nombreuses personnes errent en pleine semaine entre les blocs d'appartements délabrés. Dans le pays, près de 32% de la population est touchée par le chômage, à l'image de Laetitia, 36 ans.
Mon mari est aussi sans emploi et nous avons 5 enfants. Le président Nelson Mandela avait tant d'espoir pour le futur et c'est triste de voir qu'une fois qu'il n'était plus là, rien ne s'est vraiment réalisé.
Taux de croissance au plus bas, affaires de corruption en série et limites des politiques mises en place, ce sont surtout les échecs de l'ANC au cours des 30 dernières années qui sautent aux yeux des plus pauvres. Faute d'accès à un logement social, Morgan, la cinquantaine, a fini par construire illégalement une maison en tôle sur un terrain vide au sud de la ville.
J'avais bien déposé un dossier il y a au moins 15 ans et j'attends toujours. Je ne sais pas ce qui se passe. Il vaut mieux ne rien promettre du tout plutôt que de faire des promesses en l'air.
Malgré des tentatives de redistribution, l'Afrique du Sud reste aujourd'hui l'un des pays les plus inégalitaires au monde, comme le rappelle Isobel Fry, directrice du think tank Social Policy Initiative.
Un des gros problèmes, c'est le manque d'actifs détenus par la majorité de la population sud-africaine. Sous l'apartheid, les communautés noires ne pouvaient presque pas posséder de terres. Pareil pour les petites entreprises, les gens étaient prolétarisés et dépendants de leur salaire.
Des déceptions qui pourraient coûter cher à l'ANC, alors que l'Afrique du Sud s'achemine vers des élections générales le 29 mai prochain.
Un reportage signé Claire Bargelès. 68 drones ukrainiens abattus au-dessus du sol russe cette nuit. Une nouvelle tentative de Kiev de déplacer la guerre sur le territoire de son ennemi. Selon Moscou, la plupart des engins interceptés survolaient la région de Krasnodar au sud. Deux autres en Crimée annexée. Les autorités russes n'ont pas fait état de dégâts sérieux.
Stéphane Séjourné entame aujourd'hui une tournée au Moyen-Orient.
Elle doit mener le ministre français des Affaires étrangères au Liban, puis en Arabie Saoudite et enfin en Israël et dans les territoires palestiniens. Une façon d'occuper l'espace diplomatique pour empêcher une escalade régionale des tensions. Christian Chéneau.
Tout faire pour éviter une guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah, même s'il n'aura pas de contact direct avec le parti de Dieu. Stéphane Séjourné vient à Beyrouth pour délivrer un message de retenue aux autorités afin d'empêcher une escalade qui serait dévastatrice pour le Liban, déjà fragilisé par le fardeau des réfugiés syriens sur son sol et d'une crise économique et sociale d'une ampleur jamais vue. Depuis des semaines, la tension ne fait que monter de part et d'autre de la frontière. Le volume d'échanges de tirs a été multiplié par deux depuis le 14 avril dernier, constate un diplomate français qui ajoute que ce qui se passe au Liban ne peut pas être séparé de la guerre à Gaza. Or, dans l'enclave palestinienne, la France redoute une ultime offensive israélienne sur Rafah, qualifié de nécessaire pour vaincre le Hamas par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Paris a fait savoir son opposition alors que des signes montrent qu'elle se prépare activement. Si elle était déclenchée, ce serait un point de rupture et une catastrophe humanitaire sans précédent, avertit un diplomate du Quai d'Orsay.
Dans ce contexte où les Palestiniens redoutent toujours une attaque imminente sur Rafah, le Hamas l'a annoncé dans la nuit. Il étudie une contre-proposition israélienne concernant une trêve des combats. Il y a deux semaines, les négociations avaient abouti sur une impasse. Le contenu du texte n'a pas filtré. Mais plutôt cette semaine, la presse israélienne a évoqué la libération possible de 20 otages considérés comme des cas humanitaires.
Les étudiants ont levé hier soir le blocage de Sciences Po Paris.
Les locaux historiques du 7e arrondissement ont été investis dans la nuit de jeudi à vendredi. vendredi par des militants de la cause palestinienne. Ils réclamaient de leur direction des prises de position plus claires sur l'action israélienne dans Gaza et l'arrêt des partenariats avec des universités de l'État hébreu. Finalement, dans la soirée d'hier, un début d'accord a été trouvé. La direction promet un débat en interne et l'abandon des sanctions disciplinaires en échange de la fin des perturbations. Les centaines de manifestants qui bloquaient la rue sont partis, tout comme la soixantaine d'étudiants qui étaient à l'intérieur de l'école. Willy Moreau.
La soixantaine d'étudiants qui bloquaient le bâtiment sort sous les applaudissements. Un mail vient d'être envoyé. La direction accepte une assemblée d'ici jeudi prochain sur les différentes revendications.
Ce petit mail, il est énorme en fait finalement et ça leur a coûté des heures de négociation.
Tarrois, l'une des principales mobilisées.
Ce qu'on a obtenu, c'est une réunion avec au moins une partie de l'administration, les décideurs en fait. Et traiter justement nos demandes en fait.
Les jeunes dansent autour d'un immense drapeau palestinien, une effusion de joie mais une prudence également pour cet étudiant.
On n'a pas gagné, on verra quelles seront les suites des événements. Ce qu'on demande à Sciences Po, c'est qu'à la hauteur de ses moyens, elle mette en place des choses qu'elle avait mises en place par le passé sur d'autres conflits.
Des partenariats avec des universités russes ont été stoppés après la guerre en Ukraine notamment. Désormais, certains espèrent que le mouvement fera tache d'huile dans d'autres universités.
C'est l'objectif, c'est que ça fasse du bruit en France comme ça l'a fait aux États-Unis et en Irlande et en Angleterre. Il faut que ça le fasse en France aussi. Un mouvement plus homogène fait plus de bruit et aura beaucoup plus d'impact.
Un mouvement aussi politique avec une présence remarquée d'élus France Insoumise. Elle a été très apprécié par ses étudiants.
Willy Moreau devant l'établissement.
France Culture, il est 8h06, le journal Diane Berger et l'on parle maintenant d'un autre parti politique, le parti animaliste.
Aux dernières européennes, il avait créé une petite surprise avec un score de 2,2%, encore un peu loin du seuil nécessaire pour décrocher des sièges au Parlement européen, mais un chiffre conséquent pour une petite formation discrète le reste du temps. Le mouvement retente l'aventure. Cette année, il tient son deuxième meeting de campagne cet après-midi à Grenoble. Sa liste est prête, son programme aussi, Rosalie Lafarge.
Cette fois, ils font campagne, les animalistes, sur les marchés, dans des meetings et surtout sur les réseaux sociaux. Le programme y est décliné, les candidats présentés, les idées reçues combattues, ici par Dushka Markovic, cofondatrice du parti et cinquième sur la liste.
Beaucoup de personnes pensent qu'on parle que des animaux, mais finalement, toutes les mesures que nous portons sont aussi des mesures environnementalistes.
Et pour, comme le souhaite le parti qui revendique 4 à 5 000 adhérents, sortir de l'élevage intensif et amorcer une transition efficace de nos modèles agricoles, l'échelon européen est sans doute le plus pertinent, insiste la tête de liste Hélène Thuy.
Toutes les directives et tous les règlements sur la façon dont on traite les animaux dans les élevages, dans les transports, dans les abattoirs, toutes ces règles, elles viennent du droit de l'Union européenne. Intervenir au moment de l'édiction de ce droit, donc en étant au Parlement européen, c'est une étape clé.
Mais pour y arriver, le parti animaliste doit plus que doubler son score de 2019, obtenu à l'époque sans faire campagne, rappelle la chef de file. C'est donc faisable, veut croire le quatrième sur la liste, Simon Nordman.
Parce que les européennes, c'est une élection dans laquelle on peut voter pour une conviction. On peut dire « je défends tel message ». Il n'y a pas l'impératif de la majorité à la fin à constituer. Et donc là, même les gens qui se disent de façon générale « moi je vote utile », là le vote utile, c'est un vote pour ses convictions.
Aux dernières européennes, 3 animalistes ont été élus en Allemagne, aux Pays-Bas et au Portugal. Pour y parvenir, les Français doivent dépasser les 5%, là où ils plafonnent pour l'instant dans les intentions de vote à 1,5%.
Rendez-vous aux urnes le 9 juin prochain. Le ministère de l'économie soulagé, les agences de notation Fitch et Moody's n'ont pas dégradé la note de la France hier soir. Cela malgré les mauvais signaux des finances publiques du pays.
La question des primes pour les Jeux Olympiques fait des remous dans certains secteurs.
Les conducteurs de métro et de RER toucheront entre 1600 et 2500 euros de bonus s'ils travaillent sur la période des Jeux, jusqu'à 1900 euros pour les policiers et gendarmes, mais tous les secteurs n'y ont pas le droit. À la PHP, l'assistance publique Hôpitaux de Paris, les syndicats menacent même de déposer un préavis de grève si une prime de 2000 euros n'est pas instaurée pour tous les salariés de l'établissement, car pour l'instant les primes ne concernent qu'une partie des services, elles sont soumises à de nombreuses conditions et quand les médecins gagneront 2500 euros en plus, les aides-soignantes, elles, ne toucheront que 800 euros. Christophe Prudhomme est médecin urgentiste à l'hôpital Avicenne de Bobigny, délégué CGT, on l'écoute.
La direction de l'assistance publique a demandé à tous les personnels, de l'assistance publique, de réduire ses congés à 15 jours maximum, ce qui est une dérogation au droit du travail. On a le droit normalement à 3 semaines d'affilée. Donc tout le monde a fait un effort. Là, on limite la prime à 60 de services. Il faut avoir renoncé à 1 semaine de congé et il faut travailler 5 jours d'affilée pendant les semaines des Jeux Olympiques pour toucher la prime. Ça limite très fortement le nombre de personnes concernées. Et puis, les renforts qui vont être octroyés à ce 68 services, en particulier dans mon hôpital, c'est du personnel qu'on prend ailleurs. C'est pas du personnel supplémentaire qu'on a embauché, parce que on est aujourd'hui en sous-effectif dans les hôpitaux et en particulier à l'assistance publique. Alors le préavis de grève pendant la période des JO, c'est tout à fait symbolique, parce que vous savez, quand on fait grève à l'hôpital, on travaille quand même parce qu'on est assigné, mais il faut imaginer ce que ça veut dire pour la réputation de la France, qui est très chère à notre cher président de la République, si effectivement le plus grand hôpital d'Europe, qui est la PHP, annonce qu'il y aura une grève pendant les Jeux Olympiques, parce que le gouvernement n'a pas répondu aux demandes de bonification par voie de prime de la part des personnels qui sont en sous-effectif.
Le médecin urgentiste Christophe Prudhomme qui répondait à Julie Paco. Un nouveau nom dans le portefeuille de Daniel Kretinsky, le milliardaire tchèque investi dans ThyssenKrupp, le grand producteur d'acier allemand. Il vient d'acquérir 20% de la branche sidérurgie. Le montant de la transaction n'a pas été révélé, mais selon une source proche du dossier, il avoisinerait les 400 millions d'euros. Cela alors que le fabricant d'acier rencontre de graves difficultés, Sébastien Baer.
Victime de la surproduction mondiale, du ralentissement de l'économie et de la concurrence asiatique, le groupe a enregistré des pertes sur 4 des 5 dernières années et les tentatives pour relancer l'activité ont jusqu'à présent échoué. Au travers de ce partenariat, le patron de ThyssenKrupp espère renouer avec le succès. Mais l'arrivée de Daniel Kretinsky préoccupe les représentants du personnel qui redoutent des fermetures de sites et des licenciements parmi les 27 000 salariés de la branche. Après cette prise de participation de 20%, le milliardaire pourrait faire l'acquisition de 30% supplémentaires. Dans un communiqué, Daniel Kretinsky explique qu'il entend aider ThyssenKrupp à mettre en œuvre sa transition énergétique. Le groupe souhaite rendre sa production sidérurgique climatiquement neutre d'ici 2045. L'opération permet en tout cas à l'investisseur tchèque d'étendre son empire industriel en Europe. Daniel Kretinsky, dont la fortune est estimée à 9,3 milliards de dollars, a bâti son succès grâce aux énergies fossiles avant de diversifier son activité et d'investir dans la distribution, les médias et l'édition. La prise de participation de l'homme d'affaires dans ThyssenKrupp a fait bondir le cours de l'action du conglomérat allemand qui enregistre une hausse de 7% à la bourse de Francfort.
Sébastien Baer à Berlin pour France Culture.
Et l'on termine ce journal, Diane, avec de la danse et cette programmation spéciale au Théâtre de la Ville à Paris.
Place à la danse sur la place du Châtelet avec des ateliers gratuits où venir s'essayer avec le chorégraphe Boris Charmatz, y compris si on n'est pas danseur, du participatif et du gratuit pour ouvrir les portes au grand public, Chloé Leprince.
Une offre gratuite qui n'empêche pas une programmation payante, hein. En tout cas si vous avez plus de 14 ans, mais une offre gratuite qui s'appuie sur la danse pour élargir le public. Et la danse, c'est justement une des disciplines artistiques sur laquelle on a traditionnellement misé pour faire le pari de l'ouverture sociale, le pari d'une conversion entre la pratique amateur et la fréquentation des lieux culturels. Après la musique, première discipline artistique pratiquée par les enfants à partir de 6 ans, c'est en effet la danse qui compte le plus d'adeptes. Et contrairement à la musique ou au chant, ça dure après le passage au collège. Alors la danse, levier de démocratisation culturelle, c'est un peu le credo depuis que le ministère de la Culture a pris davantage au sérieux la danse. Ça date notamment de l'arrivée d'un certain Michel Guy au poste de secrétaire d'État à la Culture en 1974. C'est lui, l'ancien fondateur du Festival d'automne, qui changera la donne dans la politique culturelle. La danse sera un peu moins son parent pauvre et en 1982, Jack Lang doublera même son budget. La danse des amateurs qui pratiquent, la danse qui se maintient dans les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français. Est-ce que ça crée pour autant un public pour la danse des spectacles professionnels? Ce rêve de capillarité, on en parle depuis le tournant des années 2000, depuis aussi que les subventions ont augmenté. Eh bien en fait, pas tant que ça. Pour résumer, le ruissellement, on est encore loin du compte et l'ouverture sociale, on n'y est pas plus du côté du public que de l'origine sociale des danseurs professionnels.
Et Chloé, depuis la création des centres chorégraphiques sur tout le territoire, la fréquentation des spectacles de danse a pourtant légèrement progressé depuis les années 70.
C'est vrai, mais aller voir un spectacle professionnel, ça reste une sortie de gens à l'aise, de Parisiens en particulier, et aussi d'abord un loisir féminin. Dans le détail, grosse disparité entre cadres moyens et cadres supérieurs, par exemple. Les premiers n'y vont pas vraiment plus aujourd'hui qu'il y a 30 ans, contrairement aux cadres supérieurs qui sont pas loin d'être deux fois plus nombreux. Le gros changement, ces dernières années, il se situe d'abord au niveau de l'âge. Le public de la danse a rajeuni, contrairement au public du théâtre ou de l'opéra, par exemple.
C'est pas nécessaire, je suis d'accord.
Merci Chloé Leprince. Et puis la météo. Météo France place 8 départements du sud-ouest en vigilance orange pour des risques d'orage cet après-midi. Il s'agit de la Gironde, des Landes, de la Charente, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Lot. Sinon, il fait gris avec des pluies sur l'ouest et le centre du pays. Côté température, il fait assez doux, entre 10 et 15 degrés ce matin. Cet après-midi, cela va monter entre 12 et 17 sur la moitié nord, 18 à 20 degrés sur la moitié sud.